Bonjour, ici François Nardou, de Montcuq, depuis le studio du Boulevard. J'ai envie aujourd'hui de parler d'un sujet qui rentre dans le cadre de l'économie touristique et de la culture carcinole, façon occitane de dire carcinoise, à savoir les caselles et gariottes, autrement dit, les cabanes en pierre sèche. Vous savez que c'est un thème très à la mode et qui caractérise le Quercy. C'est un type d'édifice que l'on rencontre surtout le pourtour du bassin méditerranéen, notamment en région calcaire, avec toutefois, chose qu'on ignore trop, d'autres exemples dans des régions à sols acides, cristallins, métamorphiques. Les cabanes en pierre sèche se retrouvent jusqu'à dans le nord-ouest de l'Europe, en Écosse par exemple. Donc c'est pas vraiment spécifique du monde méridional, méditerranéen, à sol dans la roche profonde et calcaire. Alors qu'est-ce que c'est que ces caselles et des gariottes ? C'est un vrai problème d'histoire et d'ethnologie, qu'ont traité des auteurs devant la science desquels je ne peux que m'incliner, à savoir Jean Lartigot, qui avait fait des travaux de recherche sur le sujet, ancien président de la Société des études du Lot, docteur en histoire, mais également quelques auteurs de référence. Alors il y a un auteur de base, c'est Christian Lassure, avec deux S, La pierre sèche, mode d'emploi, dans la collection Chantiers pratiques, aux éditions Eyrolles, E-Y-R-O-2-L-E-S. Vous avez ensuite, plus simplement, et avec beaucoup d'illustrations, et qui concerne vraiment le Quercy, mais pas vraiment le Quercy blanc, qui est très peu abordé, c'est assez curieux, de Roger Sénat, avec un T à la fin, et Gérard Canou, aux éditions de Tertium, collection Pays d'Ancre, Caselles du Quercy, Cabanes et Gariottes d'Écosse. Beaucoup d'illustrations, beaucoup d'explications, mais le Quercy blanc est très peu abordé. Vous avez ensuite Maisons et paysages du Quercy, de Jean-Luc Oberreiner, avec photographie de Nelly Blaya, aux éditions Priva. Et évidemment, de multiples articles, dont souvent Jean-Luc Oberreiner était l'auteur, dans la revue Quercy Recherche, la défunte revue Quercy Recherche, irremplaçable. Alors, les caselles et gariottes, c'est un sujet qui pose quelquefois des problèmes, parce qu'il y a d'abord une querelle de mots. Certains voudraient que l'on emploie un terme spécifique à chaque type d'édifice en pierre sèche. Alors, Jean Lartigot, du haut de son repère dans la Bastidette Haute, à Pont-Circ, avait émis un oukase sous peine d'excommunication qui classait ces édifices en selon leur modèle. Alors, par exemple, la cabane en pierre sèche isolée, c'était une caselle. Lorsque c'était un abri inclus dans un mur ou un caillou, c'est-à-dire un tas de pierres, c'était une gariotte. Dans le pays de Montcuq, le Quercy blanc, on n'emploie guère que le mot gariotte. On n'emploie pas d'autres termes, gariotto en occitan. Casello, caselle est inconnu. Et quand j'étais enfant, je me souviens, j'avais 8 ans, je revenais d'une promenade sur l'Écosse, et sur le boulevard Chapou, je dis à un de mes anciens voisins, Othon Lafage, nous avons vu des cabanes en pierre. Oh, des cabanes de berger. Pour les gens de Montcuq autrefois, c'était des cabanes de berger, voyez-vous. Donc là, un mot, une chose qui pose là aussi beaucoup de difficultés, étant donné qu'il n'y avait plus de berger à ce moment-là, et que les caselles et gariottes relèvent d'un autre type d'économie que l'économie pastorale. Alors pour en revenir d'abord aux mots, qu'est-ce que c'est que ce terme ? Moi, mais ce qui m'intéresse évidemment toujours, vous le savez maintenant, c'est la linguistique, la philologie, les étymologies. Alors le terme de caselle, qui s'écrit casella en occitan graphié selon les normes de l'Institut d'études occitanes, qui se prononce casello, en français caselle, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la petite casa. Qu'est-ce que c'est qu'une casa ? Aux origines, c'est pas du tout la hutte de domestiques ou de paysans pauvres, c'est la maison paysanne. Et casa, casella, c'est donc la petite demeure de maître. Le latin casa, casa si vous voulez, a donné le français chez, C-H-E-Z. En occitan, ça a évolué sous la forme caso, que l'on retrouve dans beaucoup de toponymes et même noms de famille. Alors, il n'en manque pas. Je vais le dire en français, ce sera plus simple. Casenove, Caseneuve, Casebielle, Vieilles Cases, etc., etc. Nouvelle maison, vieille maison. Alors, le français chez, C-H-E-Z, a exactement le même sens que la terminaison latinisée sous la forme acum, qui vient du gaulois ach, qui était, pour parler en termes savants, en termes de grammaire, la désinence du génitif pluriel à valeur de locatif, c'est-à-dire, si vous voulez, le complément de possession qui signifie le lieu de, le domaine de. vous avez en Auvergne une abbaye bien connue, la Chaise Dieu. Alors la Chaise Dieu, ce n'est pas la chaise au sens de siège de Dieu, c'est la Casa Dei, c'est la maison de Dieu. Et qui a évolué en occitan sous la forme d'abord casa, puis chasa en occitan du septentrional, en occitan d'Auvergne, chasa qui a fini en chesa, francisé en chaise Dieu. Alors la casella, cette petite casa, bizarrement, n'apparaît pas beaucoup dans les actes anciens. Ça avait frappé Jean Lartigot, et pour avoir lu aux archives et dépouillé et transcrit aux archives départementales les mêmes actes que ceux qu'a utilisé Jean Lartigot dans sa thèse sur le Quercy après la guerre de Cent Ans, je me suis aperçu comme lui que dans nos régions de Quercy Blanc, le terme employé à la fin du Moyen-Âge, au XVe siècle, et pour des contrées que je connais bien, puisque ce sont les Causses au sud et au sud-est de Montcuq, et que les parcelles de terre concernées sont celles que je retrouve encore dans le paysage, et que je trouve dans, sur ces parcelles des gariotes et caselles qui sont apparemment celles citées dans les actes du XVe siècle, on s'aperçoit qu'à ce moment-là, les notaires de Montcuq employaient le terme latin « cabana », en occitan moderne cabano, qui a donné le nom de lieu las cabanes, si vous voulez, lai cabanos, les cabanes, et qui désignait, c'est l'opinion de Jean Lartigot, des constructions en pierre sèche sur les Causses du Quercy. Alors le terme cabana, évidemment, nous vient, alors là c'est assez compliqué, parce que cabana c'est la forme latine, mais l'origine est gauloise, et elle est même probablement plus ancienne que le gaulois, elle est même pré-indo-européenne. Et elle désigne donc des constructions en pierre sèche, souvent à plan circulaire, quelquefois quadrangulaire, avec voûte en encorbellement, voûte elle-même couverte d'une coupole de protection composée de, disons, de dalles de pierre calcaire plate disposées en écailles de poisson, de façon à évacuer l'eau de pluie qui tombe sur le toit, sur la coupole. Et cette la voûte en encorbellement protégée par la coupole se termine par un oculus, un œil, un trou sommital, souvent avec une dalle de pierre plate placée dessus, et dalle de pierre plate supportant un roc en forme de pain de sucre. Vous avez une très bonne représentation de ce type de caselle en page de garde, en couverture du numéro 110 de la revue Quercy Recherche. Vous en trouverez ailleurs, ne vous inquiétez pas. Alors c'était ça véritablement la caselle, qui est différente de la gariote, qui pour Jean Lartigot désigne un abri installé dans un mur en pierre sèche ou dans un tas de pierres sèches entreposées en vue de construire une caselle ou un mur, ce qu'on appelle un caillou. Un type même de gariote composé d'un abri, un simple abri de très faible dimension, pas très haut, pas très large, inclus dans un mur en pierre sèche. Un excellent exemple, c'est celui qui est reproduit dans Caselle du Quercy de Sénat et Canou. C'est à Pont-Circ, canton de Catus, en dessous de la Bastidette Haute. Je n'en dirai pas plus parce que je connais les propriétaires, ils ne tiennent pas ce que je fasse à la publicité pour leur demeure. Et là, c'est vraiment remarquable. Alors, le terme de gariote lui-même est interprété par des non-linguistes comme étant une forme occitane du français guérite. C'est une erreur monumentale qui révèle bien, disons, enfin bref, les fondements sur lesquels ces gens-là s'appuient. Alors, il faut savoir que le terme « guérite » en français vient du germanique « wardian » ou « vardian » qui a donné « garder ». Alors, surtout ceux qui ont fait de l'allemand et de l'anglais vont y retrouver « warden »,« garden », etc., etc. Qui a donné l'occitan « gardo », la garde, une tour de guet. Qui a donné aussi l'anglais « garden », l'allemand « garten », le français « jardin ». Une gariote serait une petite guérite, une petite garde. L'équivalent du français « guérite » serait en occitan un mot de forme « garita ». Prononcé garito. En fait, pour les linguistes et paléolinguistes sur les recherches desquelles je m'appuie, le terme gariote viendrait, serait le vestige. Et alors là, c'est très curieux parce qu'on a la désinence ota, qui est un diminutif latin tardo-antique passé en occitan, mais que l'on retrouve également dans les dialectes d'oï, c'est le français hot ou hotte au féminin. Alors le radical serait gar, qui est un radical pré-indo-européen, suivi donc du suffixe diminutif, gallo-romain tardif, mais qui peut avoir un équivalent en pré-indo-européen. Alors ce radical gar, parce qu'il y a une alternance dans la prononciation des consonnes, on a quatre formes alternantes, gar et gal, car et cal. Et ça désigne tout ce qui est dur, tout ce qui est en pierre, tout ce qui est dur comme la pierre. Et c'est assez encore plus intéressant parce que lorsqu'on sait, bon évidemment, les gariotes, on sait de quoi c'est fait avec des claps. Les claps, qu'est-ce que c'est? C'est les dalles de pierre sèche que l'on prélève sur le sol, et pas par n'importe quel moyen. Alors le radical cal que vous avez dans claps, dont la forme de base aurait été calappa, cal plus appa, avec une désinence de nuanciation. Et un claps, des claps, ce sont les loses, les dalles de pierre plate dont on se sert pour bâtir des gariotes et caselles, des murs en pierre sèche. Et un tas de claps, ça va devenir en occitan local un clapier. Alors j'ai quelques anecdotes à ce sujet. Je me souviens, me promenant sur les Causses au sud de Montcuq, au lieu dit Tagliopeno, qui est littéralement taille-rocher, je rencontre le propriétaire des lieux, il est décédé depuis longtemps, Ulmayrou. Et il me parle du clapier qu'avait fait son frère. Je lui dis, qu'est-ce que c'est? Pour moi, un clapier, c'était une bâtisse à lapin. Pas du tout, c'était un tas de claps. Alors, il y a encore plus intéressant, pour en revenir à l'idée qui est derrière le terme de gariote, c'est qu'il se pourrait qu'à travers le radical gar, on ait, mais ça les linguistes en sont sûrs et certains, on ait l'origine d'un terme connu en Afrique du Nord, au Maghreb, dans les langues couchito-sémitiques, représentées par les dialectes berbères, le dialecte touareg, la mazir. Alors, il faut prononcer rare, ça s'écrit GH en caractère latin, hein. GHAR. Le GH, c'est pour tous les gens qui ont fait un peu, ne serait-ce qu'un peu d'arabe, on retrouve de suite le son guttural rain, c'est pas impossible du tout. Et rare en arabe du Maghreb, c'est-à-dire berbérisé. En berbère arabisé, ça désigne la grotte. Ça ferait donc de la gariote une petite grotte. C'est-à-dire que la gariote du Quercy Blanc, ce serait la reproduction de la grotte des origines. Nos ancêtres d'il y a X millénaires seraient aux origines de nos gariotes, de nos petites grottes, qui reproduiraient les abris sous roche, les balmos, comme on dit en bon occitan et dans le vocabulaire des archéologues, les balmos, les abris sous roche, qui auraient été, avec un aménagement de murs en pierre sèche, les premiers abris de nos ancêtres, ou de nos prédécesseurs, plus exactement, du paléolithique. Ces habitants du bassin aquitain du paléolithique, les peintres de Lascaux et de Pechmerle, auraient donc dans leur station d'hiver, dans les balmes, les abris sous roche, exposés plein sud, où ils passaient l'hiver, auraient donc aménagé des établissements avec murs en pierre sèche et couvertures certainement en charpente couverte de feuillage pour se protéger du froid, à la faveur des feux qu'ils pouvaient entretenir sous ces balmes. Et ce serait là l'origine de nos gariotes, qui aurait donc une origine fort ancienne, mais ce n'est qu'une hypothèse parmi toutes celles qui agitent l'esprit des historiens caturcinologues sur l'origine des gariotes. Alors nous allons voir la suite dans le quart d'heure qui suit, après un petit intermède musical.
L'alouette et le pinson, tous deux se sont mariés. Le lendemain de leur noce, n'avaient pas de quoi manger. Alouette, ma tourlourette, mon oiseau que tu lui vaux.
Alouette, ma tourlourette, mon oiseau que tu lui vaux.
Par ici passe un lapin, sous son bras tenait un pain.
Par ici passe un lapin, sous son bras tenait un pain.
C'est de la viande qu'il nous faut. Alouette, ma tourlourette, mon oiseau que tout lui faut.
Alouette, ma tourlourette, mon oiseau que tout lui faut. Mon oiseau, mon oiseau.
Alors, ces fameuses gariotes du Quercy blanc, qui sont très peu abordées dans l'ouvrage Cazelle du Quercy de Sénat et Canou, c'est pour ça du reste que j'en parle, parce que bon, je ne vais pas remarcher sur les brisées de gens plus compétents que moi pour parler de ce qui allait naître dans le Haut-Quercy, au nord de la vallée du Lot et même déjà un peu au sud, sur les calcaires jurassiques du Haut-Quercy et sur le Causse de Limogne. Je vais vous parler plutôt de ce qu'il en est en Quercy blanc, que je connais mieux que le reste. Alors, effectivement, elle désignait, dans les années 60, ce qu'on appelait également des cabanes de bergers. Alors, c'est là que réside le problème. L'Artigot s'était aperçu qu'elles étaient déjà citées dans les actes au XVe siècle, à Montcuq même, et dans des lieux que je connais où il y a toujours des gariotes. Oberreiner, dans ses articles dans la revue Quercy Recherche, avait exposé, sur preuve, sur ses recherches personnelles aux archives comme dans les paysages du Quercy, que beaucoup de gariotes dont il trouvait attestation au XVIIe siècle et qu'il retrouvait au XXe siècle, ou des caselles, mais au bout de 300 ans réduites en un état de quasi-ruine. Il s'était aperçu, Jean-Luc Oberreiner le développe très bien, que ces gariotes et caselles ne subsistaient, ne pouvaient être conservées qu'à condition d'être entretenues et qu'au bout d'un siècle en général, elles commençaient déjà à donner des signes de faiblesse, des signes de passage à l'état de ruine. Celles qu'il avait pu retrouver, déjà mentionnées sous Louis XIV, n'avaient pu être conservées jusqu'aux années 1980 que par des soins attentifs et réguliers. Alors, pour les auteurs consultés, Sénat et Canou par exemple, ils pensent que la plus ancienne attestation de nos gariotes et caselles remonterait au XIIIe siècle. Moi, je n'en ai pas trouvé avant le XVe. Et par la suite, c'est assez rare. Il faut dire que les notaires n'en parlent pas très souvent. Donc, nos cabanes de bergers des Montcuquois des années 1960 posent un problème quant à leur origine. Parce que voilà, et c'est le raisonnement simple, elles sont construites en pierre sèche. Or, les pierres sèches ne peuvent être obtenues par, extraction du sol qu'à l'occasion de travaux du sol à la charrue ou à l'arrière, à la rigueur, à ce qu'on pourrait appeler la sarcle. En fait, l'outil dont on se sert est une sarcle à bout très pointu, à fer long et pointu, qu'on appelle l'aixado. C'est-à-dire littéralement la sarcle en forme de hache. Voilà ce que ça veut dire. Or, c'est le raisonnement de tout le monde, de l'Artigot, d'Oberreiner et d'autres. Nos ancêtres paysans quercinois des siècles qu'on appelle modernes, c'est-à-dire du 15e au 19e, n'ont pu extraire les claps, les lozes, les dalles du sol, les dalles de calcaire du sol, qu'à l'occasion de travaux de la terre. Or, ces travaux de la terre se faisaient avec quoi ? On avait essentiellement comme outil, sous l'Ancien Régime et jusqu'aux années 1860, jusqu'au Second Empire et même au-delà, en Quercy, on travaillait le sol à l'arrière et non pas à la charrue. Les charrues n'apparaissent dans nos régions qu'après 1860. Et encore en 1860, dans les documents conservés aux archives départementales, on voit que la charrue est rarissime dans le Lot, dans le département du Lot. Donc pendant des siècles et des millénaires, le travail des sols d'Écosse à l'arrière permettait occasionnellement de faire monter, de faire lever des esquilles de pierre calcaire qui étaient comme des espèces de dents, si vous voulez. On disait que les claps, les lozes, les dalles de calcaire montaient du sol, elles poussaient hors du sol comme des dents poussent hors d'une mâchoire. Elles étaient le produit, certes, de l'épierrement du sol lors des travaux à l'arrière, mais en même temps, c'est comme si la roche-mère en dessous, enfin, c'est pas une roche-mère, hein, c'est un sédiment, donc c'est en bonne géologie, c'est pas une roche-mère. Enfin, c'est la roche-mère du sol, mais si vous voulez, c'est comme si le calcaire du soubassement faisait remonter des éclats de calcaire vers la surface. Et après travail donc du sol à l'arrière ou à la bourre à la charrue, les paysans du Quercy du 19e et 20e, en quelque sorte, étaient une véritable récolte naturelle. Récoltaient ces dalles de pierre, les triaient, les mettaient en tas selon leur volume, leur poids, leur dimension et l'utilisation possible qu'ils pensaient en faire. Il semble bien, d'après les ouvrages que j'ai lus, que la grande mode des cabanes en pierre sèche, cariotes et caselles, et même des murs en pierre sèche, et ce soit, épanoui à partir, disons, de la fin de l'Ancien Régime, le XVIIIe siècle, avec toutes les mesures, les lois royales en faveur du défrichement et de l'emblavement de la culture des campagnes en blé. Comme me disait un ingénieur agronome de la Chambre d'agriculture, autrefois, on visait avant tout à produire du blé. Donc ce sont les lois royales du XVIIIe siècle visant à éviter le retour des famines et des disettes, alors que la France connaissait une explosion de sa démographie, qui ont amené non paysanne du Quercy, à travailler le sol à l'arrière et à produire le plus de blé possible. Et c'est ce travail du sol à l'arrière qui faisait monter donc, les dalles de calcaire et les mettait à la disposition de nos paysans pour bâtir des murs en pierre sèche, des caselles, des gariotes. Il faut savoir que les murs en pierre sèche sont déjà cités par Blaise de Montluc, repris par Louis Saint-Marty dans son Histoire populaire du Quercy, sous Henri IV, enfin à la fin du XVIe siècle. Alors, ces dalles de calcaire, qu'on appelle donc des claps, d'où le terme clapier, d'où le surnom de Montpellier, loup clapasse, qui désigne le pêche du Peyrou. Le Peyrou, c'est la pierre, le rocher. Et ces claps, triés, entassés, étaient utilisés pour bâtir des murs en pierre sèche, des cabanes en pierre sèche, des caselles, des gariotes. On s'est aperçu que ces édifices, que ce soit les murs ou les caselles, les gariotes, avaient autant de types architecturaux différents que de petites contrées. Vous pouvez, dans le même canton, trouver des types de murs ou de caselles et gariotes différents d'une commune à l'autre, d'une paroisse à l'autre, d'une vallée à l'autre, d'un cos à l'autre. Bon, évidemment, on les trouve rarement en vallée. C'est ce qui pose le problème du nom de Las Cabanes, en vallée du Mardossou, proche de Montcuq, parce que Las Cabanes, ça veut dire les constructions en pierre sèche, on est là en plein fond de vallée. Peut-être le village de Las Cabanes a-t-il eu pour origine un hameau sur les cosses au-dessus, aux environs de Saint-Jean-le-Froid. Ce ne serait pas impossible. Et le village descendant vers le fond de la vallée aurait conservé son nom. Alors, je connais, je vous le disais tout à l'heure, beaucoup d'exemples de caselles et gariotes en Quercy-Blanc-Montcuquois. Les sites sont connus, si vous prenez une carte IGN, vous les trouverez. Cantegore, Roubellet, Le Garric, Couvinens. Il y a de nombreux exemples actuels toujours visibles, mais il y a des exemples intéressants. Parce que il est évident que nos caselles et gariotes, celles relevées, celles analysées par Sénat, Canou et Lassure ou par Oberreiner dans le Haut-Quercy, ont un type architectural classique, d'abord un plan circulaire, rarement quadrangulaire, des murs montés à la verticale et qui évoluent ensuite en voûte en encorbellement, protégés par une coupole. Les pierres sèches qui forment ces murs et cette voûte sont disposées en strates successives les unes par rapport aux autres, parallèles ou en débordement pour ce qui est de la voûte. Or, nous avons à Montcuq un cas très particulier que je ne connais pas ailleurs, et qui a introduit à la symbolique des caselles et gariotes, nous avons, au lieu dit Couvinens, alors pour y aller, il faut prendre la sortant de Montcuq par l'est, prendre d'abord la route de Saint-Cyprien, puis à peine 100 mètres après la sortie du bourg, au lieu dit Cuquel, vous prenez à droite la direction Le Garric-Couvinens. Vous arrivez sur les Cosses, vous croisez le chemin de crête, ou Camille de la Serro, tel que je le connais, et en face de vous, vous avez le chemin continu vers Couvinens. À votre gauche, il va vers Jeannès. Il va vers Marmont. Il va vers Le Touron. Et vous avez là, dans l'angle, au milieu d'une parcelle, une superbe caselle qui a une particularité que j'ai fait remarquer à beaucoup de gens lors de promenades. Et il y avait quelquefois parmi eux des gens du métier du bâtiment, un architecte, des maîtres constructeurs initiés du devoir. Alors cette caselle a ceci de particulier, c'est que, comme toujours, la porte est au sud-est. Dans toutes les caselles et les gariotes, la porte est vers le sud-est, vers le vent d'Otan. Donc les murs sont élevés à la verticale, les pierres ne sont pas posées en strates parallèles les unes par rapport aux autres, elles sont disposées les unes par rapport aux autres en formant une ellipse, une ligne hélicoïdale, une spirale, si vous voulez. Autant qu'ils m'en souviennent, ça tourne dans le sens de la course du soleil dans le ciel, des aiguilles d'une montre. Ça monte, donc, ça part du montant gauche ou droit de la porte, et ça va petit à petit jusqu'à l'oculus sommital. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est en forme de coquille et d'escargot. On ne connaît pas un autre exemple ailleurs en Quercy. Et même dans tout le monde méditerranéen, où ce type de gariote, ce type de construction est pratiqué. Alors, une fois, lors d'une promenade, dans le groupe, il y avait une dame, professeure au collège de Lozère, dont le père était maître constructeur initié. Une autre fois, j'avais un architecte, qui lui aussi fait partie du monde des recherches initiatiques. Et ils m'ont dit tous les deux, ça c'est un secret de maître constructeur, et ce type de construction est fait pour durer éternellement. Alors, le risque, parce que, évidemment, le problème des caselles et gariotes, c'est la fragilité de la roche calcaire qui est sensible au gel. La roche calcaire qui s'imbibe d'eau pendant l'hiver, qui ensuite éclate lorsqu'il gèle, Et c'est souvent, bizarrement, par le côté sud-est, où vient, ça c'est un trait de la climatologie régionale, c'est du sud-est, du vent d'OTAN, de la Méditerranée, que nous viennent les plus grandes pluies, les pluies les plus abondantes et les plus importantes aux hauteurs d'eau. Et c'est par là souvent que les coupoles commencent à être désagrégées par le gel. Autre risque pour les caselles et gariotes, mais c'est plus vrai en pays de Quercy Blanc, où on n'a pas de calcaire dur comme les calcaires monolithiques jurassiques du Haut-Quercy, c'est qu'en Quercy Blanc, le linteau supérieur de la porte est souvent composé de troncs de chêne qui, au bout de quelques dizaines d'années ou de quelques siècles, sont rongés par l'humidité, par les insectes et se rompent. Donc la fracture du linteau sommital se traduit par l'effondrement de la voûte. Mais ça peut se produire également lorsque le linteau est un monolithe. Alors c'est là le risque d'effondrement et de disparition de la caselle par la voûte. Alors cette caselle de Couvinens, elle évoque un trait général de toutes les caselles. D'abord parce que la disposition des strates de pierre, je vous le disais, qui vont en tournant dans le sens de la course du soleil dans le ciel, et en suivant une spirale jusqu'au loculus sommital qui est bouché d'une pierre plate bloquée par un pain de sucre, c'est qu'au fond, on retrouve ce qu'expose dans les ouvrages d'introduction à la fameuse collection des moines bénédictins de l'abbaye de la Pierre qui vire à Tournus en Bourgogne, sur les provinces romanes, alors le Quercy roman, le Périgord roman et autres. Vous avez deux tomes d'introduction, Le monde des symboles et Florilège des symboles. Et ces moines bénédictins, qui sont des érudits, expose que cette forme de bâtiment à plan circulaire s'élevant pour se terminer en voûte et en coupole reproduise en quelque sorte le passage symbolique de la matière à l'esprit, du terrestre au céleste, du matériel au spirituel. Ce qui est reproduit par exemple par les formes du porche nord de la cathédrale de Cahors. On passe du cube à l'hémisphère. On passe du carré au cercle, on passe de la terre au ciel. Or, le cercle, qu'est-ce que c'est ? Dans l'imaginaire des populations indo-européennes dont nous parlons les langues, même si nous ne sommes pas biologiquement, il n'y a pas de race indo-européenne, il y a des langues, il y a un groupe linguistique indo-européen. Et pour les populations de langue indo-européenne, dont l'esprit est formaté et mis en forme par une certaine structure linguistique qui joue sur notre vision du monde, parce que la langue conserve en elle-même des façons de voir les choses. Chez les peuples indo-européens, le cercle, ça représente la mobilité. Chez les indo-européens, le foyer, où brûle le feu domestique, qui est souvent objet de rites liturgiques, le feu sur un foyer circulaire est le feu des peuples nomades. Inversement, les peuples sédentaires ont un feu domestique dont le foyer est carré. C'est très net dans l'Inde ancienne et dans les rites de la Rome primitive. Le temple sur le Forum Boarium à Rome, le temple rond que l'on attribue au culte de la déesse Vesta, qui est toujours visible, il est resté intact à travers les siècles, avec ses colonnes et son toit, c'est un temple rond. Tenez, vous avez un autre exemple, c'est le Panthéon à Rome, à base carrée cubique et à voûte hémisphérique. Le Panthéon, c'est le temple de tous les dieux, c'est devenu Sainte-Marie de tous les saints. C'est une projection sur terre du monde céleste. Et une caselle, comme celle de Couvinens, par sa structure, ses formes, son architecture, son orientation vers le sud-est, est exactement vers le point où le soleil se lève le matin du solstice d'hiver, tel qu'on peut le voir depuis le roc de la Tour. Cette caselle de Couvinens reproduit la rotation des sphères de l'univers. Par sa forme, sa structure hélicoïdale, son ascension en spirale vers le pôle céleste, en fait, si vous voulez, presque un lieu initiatique. Or, je vous disais tout à l'heure que le grand âge d'or de la construction des caselles, c'est le 18e-19e siècle. Et il se trouve que dans le vieux Montcuq, place ou Patus del Putz, en haut de la Carriero del Barri Escure, de la rue du Faubourg Obscur, vous avez, quand vous entrez sur le Patus del Putz, c'est-à-dire la petite place du puits, à gauche, une maison dont le linteau supérieur porte la date 1830 et encadrée par les tricelles, la croix celtique, qui est le signe de reconnaissance entre maçon constructeur initié. Il se pourrait donc que la caselle de Couvinens ait été construite par un maçon constructeur initié vers 1830. Ce n'est pas sans intérêt lorsqu'on sait que Couvinet, c'est la caselle est toute proche du lieu du Touron, dont je vous ai souvent parlé. Vous chercherez dans les archives d'Antenne Doc, vous trouverez l'émission sur le Touron. C'est pas loin du tout de Marmont, le Malmoun, le Mauvais Mont, a toujours un lien avec le Touron. C'est pas loin de Couvinens, le lieu du Mars gaulois, du Mars Cowinnos. Donc il se pourrait que là, nous ayons, avec cette caselle de Couvinens, quelque chose qui est plus qu'une simple caselle, ou une gariote au sens où on emploie ce terme dans le pays de Montcuq. Et elle aurait été bâtie vers 1830 par un maître constructeur initié, un compagnon du devoir, donc dans le cadre de l'évolution des opinions en ce 19e siècle. Nous verrons la suite après un petit intermède musical.
Thank you.
Alors, je vous disais tout à l'heure que pour Jean-Luc Oberheim, nos gariotes conservées ne dataient guère au-delà du XVIIe siècle, à condition d'être bien entretenues, la plupart étant en ruine. Alors, la gariote et la caselle, dans le Haut-Quercy, ça a servi à beaucoup de choses, ça a eu tout un tas d'usages. Ça a pu servir de poulailler, de pigeonnier, de cellier, d'entrepôt à grains, à foin, d'abri à matériel agricole, et même quelquefois de logis rustiques, de logis pour les gens les plus pauvres. Ce qui fait que certaines gariotes et caselles étaient, comment dirais-je, enrichies par la présence de le cheminer, d'évier. On pouvait donc y passer au moins quelques temps pendant les gros travaux estivaux ou même l'hiver. On connaît des cas de villages composés de caselles qui étaient des logis de petits paysans pauvres, dans le haut du Lot comme ailleurs dans le monde circum-méditerranéen, disons. Alors, ces caselles de gariotes étaient construites par des spécialistes, c'est ce que nous révèle Jean-Luc Oberheim, et ainsi que Sénat et Canou, que l'on appelait des peilleriers de cabanos, des peilleriers de caseros, c'est-à-dire des maçons constructeurs de caselles, qui conservaient de génération en génération, par transmission à l'intérieur d'une même famille, des techniques de construction de tous les édifices en pierre sèche, depuis les murs jusqu'aux caselles et gariotes. C'était une véritable spécialité professionnelle qui ne s'inventait pas de nos jours. C'est l'objet du reste de stages de formation dans le cadre des activités du parc naturel des Causses du Quercy. Alors, ces caselles et gariotes qui ont eu un usage extrêmement utilitaire dans le passé, puisqu'elles servaient à des usages agricoles intéressants, reposaient donc sur une économie tout à fait particulière qui était celle de la production de céréales, disons une économie agricole par travail de la terre à l'arrière et ensuite à la charrue, en vue de la production surtout de céréales ou de légumes secs, ce qui permettait donc de prélever ces éclats de pierre et de bâtir les édifices en question. Et c'est ensuite l'exode rural, la déprise agricole, le réensauvagement d'Écosse par une végétation spontanée, d'abord sous forme de pelouses sèches qu'on appelle des pelenos, francisées en plaine, mais qui n'ont rien à voir avec les planos occitanes, les étendues plates. Et ensuite, ces pelenos évoluant vers un couvert végétal de plus en plus arboré et arborescent de plus en plus intense, on fait naître dans l'esprit des Montcuquois que j'ai connus dans les années 60 l'idée que les caselles et les gariotes étaient tout simplement des cabanes de bergers. Parce que dans les années 60, l'Écosse était abandonnée par les agriculteurs producteurs de céréales pour n'être plus livrée qu'à l'élevage et au pastoralisme. Et c'est la déprise agricole en quelque sorte qui a fait voir dans les caselles et les gariotes ce qu'elles ne sont pas, des cabanes de bergers, puisque bon, les bergers, eux, ne labourent pas le sol. Ce sont les agriculteurs, les cultivateurs de blé et de légumes secs ou d'arbres fruitiers qui labourent le sol. Donc, si vous voulez, la caselle et la gariote, c'est un peu ce qui nous reste d'une économie agricole qui a caractérisé les mondes méditerranéens et méridionaux anciens depuis le paléolithique, avec cette fameuse rivalité entre éleveurs, pasteurs de troupeaux d'un côté, agriculteurs, producteurs de blé, d'orge, de légumes secs, d'arbres fruitiers de l'autre. La fameuse rivalité entre Abel et Caïn. Cette dichotomie qui caractérisait l'économie ancienne, évidemment de nos jours, a perdu toute raison d'être, et nos caselles et gariotes, n'ayant plus d'aucune utilité, tendent à être abandonnées à la ruine et à disparaître sous les coups des agriculteurs mécanisés. J'ai connu de superbes gariotes au lieu dit Taliopeno à Montcuq, qu'un agriculteur venu d'autres régions du monde, n'y voyant aucune utilité, a allègrement détruite, alors qu'on avait là un beau groupe de trois caselles superbement bien conservées. Alors, pour en revenir un peu à mon idée de base, ce qui m'a frappé dans ces caselles et gariotes, c'est qu'elles évoquent par leur forme, leur structure, une théorie qui est celle de certains préhistoriens, théorie des formes et des signes, qui structurerait le mode de pensée humain à partir de formes simples, le cercle, le point, la croix, le triangle, et qui serait à la base même des productions, des artefacts en pierre taillée puis polie de nos ancêtres ou prédécesseurs du paléolithique et du néolithique. Nos caselles et gariotes seraient à travers cette utilisation, si vous voulez, des formes géométriques présentes et incluses dans la matière et mises en valeur par des artisans initiés, des professionnels, qui feraient sortir de la pierre non pas l'esprit qui s'y meut, l'esprit qui mûrit dans la pierre, mais qui ferait ressortir de la pierre les formes incluse dans celle-ci en fonction de sa nature et de sa structure physico-chimique. Et les caselles égariotes seraient donc en quelque sorte la production d'un milieu géographique bien particulier, d'un milieu géophysique, qui, par la construction de formes, exprimerait des concepts fondamentaux de la pensée humaine. Le Quercy, en quelque sorte, à travers ses gariotes, ses caselles, conserverait des traits d'une civilisation venue au-delà du néolithique, depuis le paléolithique. Et ce serait la nature des roches calcaires du Quercy qui serait à l'origine de cette exploitation des formes, des ressources naturelles que nous offre le pays, par des simples agriculteurs qui, comme le disait l'abbé Breuil à propos des artistes de Lascaux et de Pechmerle, c'était des hommes comme nous, ils étaient aussi intelligents que nous, ils avaient des moyens techniques qui ne sont plus les nôtres, mais à travers leur production, on retrouve des structures fondamentales de la pensée humaine. C'est ce que l'on peut retrouver si on examine profondément la structure, l'implantation, la localisation, l'architecture des caselles égariotes du Quercy, et notamment, et évidemment, si vous venez à Montcuq en Quercy blanc, allez à Couvinens et vous verrez cette fameuse gariote à structure hélicoïdale qui a fait l'étonnement et l'admiration de beaucoup de spécialistes initiés. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, à une autre fois et portez-vous bien d'ici là. Au revoir.
Le mois d'avril s'en est allé, le mois de mai s'est approché. Dans vos prés, les avons trouvés bien fumés. Dans vos blés, oh comme ils sont tous bien grainés. Mettez la main au nid des œufs, que chaque main en prenne deux. Qui suis le porte-panier, je prendrai bien le nid entier. Si vous ne voulez rien nous donner, à la porte nous allons crier. Sont jolies.